Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane.
En safari, en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions.
Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages, là ?
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout.
Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer.
Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer.
Vous savez vraiment vous occuper de nous.
Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Le procès d'Harvey Weinstein et le mariage soudain de Pamela Anderson. Jusqu'ici, rien à voir. Et pourtant, vous pourriez honnêtement aborder ces deux sujets de conversation au cours d'un dîner, sans vous poser de questions. Un vendredi soir ou même un jeudi. Vous savez, ces dîners où on parle de tout. De l'important, du futile, de mode, de politique, d'environnement et oui, du mariage de Pamela Anderson. Habituellement, on en parle avec Pauline et Andrea autour d'un verre de blanc ou deux. Je vous propose là d'en parler avec une actrice, une chanteuse, une écrivain, une artiste. Je suis Marion Galli-Ramouno, chef de rubrique Culture Célébrité. Et vous écoutez le podcast Revue. Dans chaque épisode, nous relisons Madame Figaro avec les yeux de nos invités. Un exercice intime, souvent sincère et parfois même engagé. J'ai avec moi aujourd'hui une comédienne. Visage pâle et grands yeux bleus, de celles que l'on décrit naturelles, pas snob. Plus jeune, vous vous rêviez patineuse artistique. La carrière sur la glace vite abandonnée en faveur d'une autre sur les planches. 25 ans au théâtre et au cinéma, le tournant de la série Canal+, Le Bureau des Légendes, mais surtout de Jusqu'à la Garde, premier film de Xavier Legrand pour lequel vous recevez le Graal, César de la meilleure actrice. Le premier rôle à votre mesure, chuchote-t-on alors, vous en promettant bien d'autres. Elle est de plus en plus étonnante, dit celui que vous considérez comme un mentor, Édouard Baird. En 2020, vous êtes à l'affiche de Deux, de Filippo Meneghetti, et de C'est la vie, où vous êtes dirigé par votre compagnon, le réalisateur Julien Rambaldi. Bonjour Léa Drucker.
Bonjour.
Alain Chabat nous confiait récemment, sans surprise sans doute, qu'il était drogué au rire. C'est quoi votre drogue à vous ?
Alors moi, ma drogue à moi, c'est de voir, c'est le cinéma et c'est la littérature. Et puis le rire aussi, je comprends tout. Enfin, quand Alain Chabat dit qu'il est drogué au rire, c'est vrai parce que le rire, c'est quelque chose qui se partage, c'est pas quelque chose de solitaire. Et donc, c'est un lien très fort quand on a quelqu'un dans sa vie avec qui on sait qu'on va passer plus qu'un bon moment, et c'est même vital.
Lors de la soirée des révélations des Césars, on a demandé aux jeunes espoirs du cinéma de nous parler de ce jour où ils se sont révélés justement, acteurs ou actrices. Vous vous souvenez de votre moment, l'instant où vous avez vraiment réalisé que vous étiez comédienne ?
Je crois que c'est même la première fois que j'ai joué, tout simplement, parce que c'était au lycée Molière, dans un club théâtre. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ma chambre, parce que j'étais fille unique jusqu'à 18 ans, donc à lire et à dire les textes à voix haute. Mais sans savoir que je voulais être comédienne, c'était juste une sorte de tic, un truc que j'aimais faire et qui mettait de l'animation. Et en fait, il y a eu... un professeur très sévère au Club Théâtre, M. Steinmetz, qui m'avait dit « Si tu veux rester au Club Théâtre, il faut que tu passes une scène. » Et moi, je ne voulais pas du tout passer de scène. J'étais là pour un garçon qui me plaisait. Mais ce que je voyais sur scène me plaisait. Et donc, je me suis fait violence parce que ça a été très compliqué. Donc, j'ai travaillé beaucoup une scène de Marivaux, la première scène du jeu de l'amour et du hasard. Et je me suis dit, je me suis jetée à l'eau. Et ça a été une révélation, vraiment. Quelque chose où tout s'est animé, quoi. Toutes ces années de chambre solitaire à dire les choses à voix haute, ça a pris vie devant des gens. C'était une exposition aussi de mon intimité presque. Et le professeur m'a dit, t'as quelque chose à faire là-dedans. Et j'avais 15 ans.
Étudié à la loupe par les psys, décrypté par les sociologues, on parlait dans une enquête récente des nouveaux pères en s'interrogeant, en font-ils trop ? On ne peut pas nier que l'instinct paternel se réinvente aujourd'hui, au moment même où l'instinct maternel, justement, vacille. Quel moment êtes-vous, Léa Drucker ?
Moi, c'est particulier parce que l'instinct maternel, le mien, je ne l'ai pas ressenti pendant extrêmement longtemps, au point que je me suis dit que je serais une femme qui n'aurait pas d'enfant. Pendant longtemps, je me suis assumée comme ça. J'ai trouvé très dur le comment les gens s'adressent à vous, justement, quand vous avez plus de 35 ans et que vous dites « mais moi, j'ai pas d'enfant et je pense que j'en aurai pas ». C'est l'agitation qui se fait là-dessus, les conseils un peu... j'ai trouvé ça très pénible. Mais c'est donc pas du tout ça qui m'a donné envie d'avoir un enfant, en tout cas. Mais c'est l'amour, en fait. C'est une rencontre. Donc, mon instinct maternel, je l'ai ressenti avec l'amour. Voilà, c'était lié à ce sentiment-là. Et la présence d'enfants qui étaient déjà là, qui sont les enfants de mon compagnon. Et j'ai senti quelque chose d'assez fort à ce moment-là. Et que ça, c'est particulier à chacun.
Dans le documentaire The Justice Project, la bimbo, ou devrions-nous dire ex-bimbo, Kim Kardashian, part à la rencontre de prisonniers et de leurs familles pour démontrer les injustices du système judiciaire américain. Quelle enquête aimeriez-vous ou auriez-vous aimé secrètement mener ?
Une enquête que j'aurais aimé, j'ai pas trop. Mais par contre, ça me fait penser. En tout cas, ça me fait penser à une photographe et à un documentaire que j'aurais aimé peut-être faire sur une photographe très célèbre qui s'appelle Jane Evelyn Atwood et qui allait faire des reportages. Elle avait fait un reportage sur les prostituées de Pigalle, mais surtout, elle avait fait un reportage aux États-Unis sur les femmes incarcérées dans les prisons de haute sécurité. Et c'est cette femme-là, Jane Evelyn Atwood, qui avait photographié une femme qui accouchait avec des menottes. Une photo terrible, très forte. Et bon, je ne sais pas si j'aurais voulu faire une enquête, mais faire un documentaire sur Jane Evelyn Atwood et comment... Parce qu'elle avait fait cette photo alors qu'elle n'avait pas le droit de la faire, que le personnel médical lui disait qu'elle n'avait rien à faire là. Et c'est la femme détenue qui lui a dit « si, prends cette photo au contraire et montre-la au monde ». Et moi, c'est des gens comme ça, comme Jane Evelyn Atwood, qui sont pour moi des grands aventuriers. Et j'aurais voulu faire un documentaire sur quelqu'un comme ça, si je savais faire des documentaires.
Igue danois, nunchi coréen, ho'oponopono hawaïen, les Français raffolent de ces recettes venues de loin qui mettent le bonheur à toutes les sauces. C'est quoi la recette du bonheur de Léa Drucker ?
J'ai pas de recette, mais c'est le calme en fait. C'est le fait de réussir à. Pour moi, c'est de réussir à me couper du monde. Ça veut pas dire être seule, mais de. Réussir à prendre de la distance avec l'agitation permanente dans laquelle on est quand même plongé, des informations, des avis, les moments de bonheur sont les moments où j'arrive à prendre du recul et où je suis. C'est des moments de chaleur, c'est aussi des moments où je profite de moments de tendresse avec des gens que j'aime, simplement sans penser à autre chose. La recette du bonheur aussi, c'est de danser. Pour moi, c'est de danser. C'est la musique et de danser. C'est des moments de déconnexion vraiment très forts chez moi.
Comment vous dansez ? Vous dansez où ?
Je danse chez moi, ou je vais dans une fête s'il y en a une, quand je peux. Enfin, s'il y a possibilité de danser, j'en profite. Okay.
Charlotte Lebon nous a dit « Retourner dans la vingtaine, ce serait hors de question ». Vingtaine ou quarantaine, qu'est-ce que vous préférez, vous ?
Alors, moi, je préfère la quarantaine. Même si j'ai des nostalgies de l'énergie que j'avais. C'est ce qui me manque, c'est l'énergie. Il y a une curiosité qu'on a à 20 ans qui est magnifique et que je trouve magique, quoi. Chez les gens qui ont 20 ans, cette énergie-là de vouloir sortir, de vouloir découvrir des choses, de s'enflammer pour des choses, d'avoir cette énergie, de vivre la nuit, le jour, que tout se mélange, de faire des rencontres, tout ça. Ça, c'est quelque chose que je sens derrière moi. Mais sur le bien-être personnel, si on pense à comment être, sur le bien-être, je me sens mieux à 40 qu'à 20. Et en même temps, je dois dire que, la douleur et la souffrance qui accompagnent parfois la jeunesse, c'est des choses qui sont extrêmement précieuses et qu'il faut traverser pour devenir ce qu'on est aussi.
C'est le leitmotiv de ces parents autoproclamés slow tech, décidés à sauver leurs enfants de l'addiction aux écrans, la diète digitale. Vous vous sentez concernée ?
Oui, je me sens concernée parce que je Je sais pas si je fais les choses bien, moi non plus. Hein. De temps en temps, je suis bien contente de mettre un dessin animé ou de... Mais c'est vrai que je sais que l'addiction au portable que j'ai moi aussi, des fois, ça me gêne devant ma fille parce que je me dis, mais c'est pas un bon exemple, en fait, de pas... de montrer qu'on n'est pas concentré sur une conversation, ce qui m'arrive de temps en temps. Mais c'est très culpabilisant, ce truc-là. Mais je trouve quand même qu'il faut... Voilà, je sais qu'il faut être très vigilant, parce que je vois bien la créativité que les enfants peuvent avoir, l'imagination qu'ils ont. Moi, je vois les délires créatifs à la maison, c'est fascinant. Dès qu'il y a un écran, dès qu'il y a un dessin animé, c'est terminé. C'est un peu triste, mais de temps en temps, ça m'arrange, parce que je peux faire autre chose. Je peux être un peu... des fois, j'ai un petit coup de fatigue, et j'ai besoin de faire quelque chose, je peux mettre un dessin animé. Non, je ne suis pas exemplaire.
Dans Marriage Story, le film de Noah Baumbach qui met en lumière le sacrifice de soi au profit de l'entité du couple, le personnage incarné par Scarlett Johansson prend conscience d'être passé à côté de sa vie, de s'être oublié dans son mariage. Vous vous oubliez parfois ?
J'ai jamais été mariée. Mais oui, ça peut m'arriver. Moi, je sens que je m'oublie parfois dans le temps, dans l'hyperactivité un peu. C'est-à-dire que moi, j'aime travailler, j'aime préparer mes rôles, j'aime préparer pour un tournage, me préparer pour un tournage, pour une pièce. Et parfois, je m'absorbe dans plein de trucs à côté de... On me demande en amont de « est-ce que tu veux bien faire ci ou ça ?» Je dis « ah bah oui, oui, avec plaisir. » Et puis après, je me dis « pourquoi j'ai dit oui ?» Donc, j'ai du mal à... C'est un manque d'organisation. Et comme le travail, pour moi, c'est très important, ça m'ennuie vraiment. Alors, je ne me dis pas que je passe à côté de ma vie, mais je trouve que je passe parfois à côté de ce que j'aime faire. Non, mais passer à côté de sa vie, c'est un grand mot, en fait. En fait, il faut déjà savoir ce que c'est sa vie aussi. Et ce qu'on aime dans sa vie, et pour se dire, bah, je suis passée à côté. Parce que la vie est tellement complexe que...
On parlait de Marriage Story, donc ce film est sorti directement sur Netflix. Cette plateforme de streaming à travers laquelle chaque mois une avalanche de contenu débarque dans nos vies, au point qu'on dise « Dis-moi ce qu'il y a sur ton compte Netflix et je te dirai qui tu es ». Il y a quoi sur le vôtre ?
Alors ça, moi je suis pas très fidèle hein, sur ces choses-là, mais c'est quoi les séries très connues de Netflix ?
Succession.
Ah ça c'est génial. Alors oui, il y a ça. Ça, oui. Ça, j'ai été addict à cette série-là, qui est absolument géniale. Ça a beau être des milliardaires, une espèce de sorte de monde un peu inaccessible sur le papier, mais en fait, leurs problèmes familiaux, les rapports de force qu'il y a dans la famille, c'est des choses assez universelles. Comment on trouve sa place, c'est vraiment brillant là-dessus. Puis en plus, ce que j'aime bien dans ces séries-là, c'est qu'ils arrivent, ils écrivent, il y a de l'humour. C'est pas une comédie du tout, mais ça va très loin dans la cruauté. Mais sur les rapports humains, c'est absolument brillant, je trouve. Très terrible, mais brillant.
Sienna Miller nous confiait il y a peu « J'ai l'impression que je commence à peine ma carrière ». Vous en êtes où, vous, de votre carrière ?
Moi, la mienne, elle est longue. Moi, j'ai jamais eu ce sentiment-là. J'ai senti les mouvements forts, évidemment, jusqu'à la garde... Ça a été un mouvement très fort, mais avant, il s'est passé tellement de choses et qui ont nourri et qui m'ont amené là. Et donc, ma carrière, elle a commencé, moi je sens qu'elle a commencé la première fois que j'ai été reçue à une audition. Et après, les 10 années où ça a été difficile, ça fait partie de ma carrière.
Réapprendre à s'ennuyer serait la méthode ultime pour déjà lâcher son smartphone et pour tout simplement lâcher prise. Vous ennuyez, ça vous arrive ?
Ça m'arrive, en tout cas, c'est un truc que je prône vraiment dans l'éducation. Enfin, que moi, j'arrête pas de dire ça à ma fille, quoi. C'est pas grave. Quand elle me dit je m'ennuie, je dis c'est pas grave, c'est très bien. Je pense que c'est un truc. Moi, je suis malhonnête parce que dès que je m'ennuie, je prends mon téléphone ou que je regarde quelque chose. Mais c'est vrai que c'est. L'ennui, moi, c'est ce qui m'a construit. Je me suis construite sur l'ennui quand même. Non pas que mes parents étaient ennuyeux, pas du tout, au contraire, mais j'étais fille unique. J'ai deux sœurs, mais elles sont nées quand j'avais 18 et 20 ans. Donc j'ai jamais grandi avec elles. Et quand on est un enfant unique et qu'on rentre à la maison, on joue tout seul pendant des heures. Et puis comme on déménageait beaucoup, le lien avec les liens pour moi avaient du mal à se créer avec les autres enfants. Donc j'étais souvent solitaire et donc évidemment dans l'ennui. Et cet ennui a nourri énormément de rêves, d'envie de faire des choses, d'observation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi-même, je le fuis. Parce qu'on a des fonctionnements maintenant dans lesquels je me suis plongée moi-même. Mais je sais que c'est essentiel.
10 ans, c'est ce qu'on pourrait gagner en adoptant un mode de vie plus sain, fait d'aliments bons pour la santé et d'un exercice quotidien. Est-ce que vous voyez vivre jusqu'à 90 ans ?
J'arrive pas trop à me projeter. J'aimerais pas mourir trop tôt parce que j'ai eu un enfant tard, donc j'aimerais bien voir un maximum de choses. Donc je me dis faut faire attention, mais j'ai du mal à être dans une hygiène de vie. Ça m'ennuie vraiment en fait. C'est-à-dire que ça m'ennuie. J'aime bien les excès. Je trouve que c'est vivant. Alors ça aussi c'est très personnel, mais je ne vis pas forcément dans l'excès, mais je trouve que c'est des choses qui font partie de la vie, de pouvoir lâcher prise aussi, de trop manger parfois, de boire trop de vin, d'être trop dans un... Moi, j'arrive pas à rester dans un cadre trop serré, trop... Parce que c'est aussi de la peur. Et moi, j'aime pas trop. Des fois, je suis dans la peur et parfois, je fuis cette peur parce qu'il faut rester vivant. Alors, surtout quand on est acteur... Si on n'est que sous yoga et thé vert, je prône pas des choses dangereuses, mais je dis juste qu'il faut faire un peu les deux. Voilà, de temps en temps, faire attention, faire du sport, etc. Et puis, il faut rien du tout. Je fais ça comme ça. Moi, j'ai besoin des deux. Voilà.
Dans notre traditionnel confidentiel, Michel Blanc nous déclarait « Le luxe, c'est très futile, mais ça me rassure. » Qu'est-ce qui vous rassure ?
Qu'est-ce qui me rassure ? L'affection, ça me rassure. La présence, l'écoute des gens qui sont importants pour moi, ça me rassure. Le travail, ça me rassure. Je guéris le trac par ça. Enfin, quand je travaille pas assez, j'ai un trac fou dans ce que je fais. Et quand je travaille beaucoup, je suis rassurée. Pas confiante, mais rassurée un peu. Mais non, je dirais ça, la tendresse et l'attention et l'écoute.
Merci beaucoup Léa Drucker.
Merci.
À très bientôt.
À bientôt.
Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane.
En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions.
Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ?
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout.
Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer.
Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer.
Vous savez vraiment vous occuper de nous.
Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.